France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets envoient du bois aujourd'hui, mais en faisant très attention à la solidité des tables et des chaises qui sont fabriquées avec ce bois. La parole est à un fabricant de meubles durables. Et cela se joue aussi bien sur le choix des essences que sur la façon de dessiner les meubles, vous l'entendrez. Ensuite, on parlera d'un petit miracle, disons-le, un nouveau lieu de culture dans un village de 400 habitants. Ce vœu entre Vesoul et Grès, 400 âmes donc, et un immense lieu de spectacle et d'exposition installé dans une ancienne usine. Les carnets de campagne passent la semaine en Haute-Saône, département de Bourgogne-Franche-Comté. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
C'est l'histoire d'un ébéniste qui, après la tempête de 1999, a rempli de bois la grange de ses parents. Du bois qu'il avait scié chez ses voisins, sur les arbres qui étaient tombés. À partir de ce stock, il s'est lancé dans la fabrication de meubles. Et aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise qui fait travailler 20 personnes. Il vend du mobilier éco-responsable fabriqué en France. Bonjour Hugo Delavelle.
Bonjour Dorothée.
C'est vous l'ébéniste en question, créateur de l'entreprise qui porte votre nom. Vous êtes à Saulnot, pas très loin de Héricourt, en Haute-Saône, tout proche du département du Doubs. Alors vendre des meubles tout en étant éco-responsable, ça impose bien sûr d'être attentif à plusieurs choses. Et d'abord le choix du bois. Quelles essences utilisez-vous chez Delavelle ?
Toutes les essences que les forêts voisines, dans un rayon de 15 km, nous procurent. Donc beaucoup de chênes, parce que les clients sont friands de chênes, mais également de l'érable, du frêne, du hêtre, du noyer, vraiment toutes les essences de bois d'ébénisterie locale.
C'est un bois qui est labellisé PEFC, hein, le programme de reconnaissance des certifications forestières.
Tout à fait, PEFC et Bois de France, on a une double labellisation et on est beaucoup plus exigeant que le cahier des charges, vu qu'on se restreint à 15 km de rayon d'approvisionnement. Et on s'approvisionne quasiment exclusivement auprès des communes forestières voisines de l'atelier.
Voilà pour la matière première. Ensuite, comment dessinez-vous vos meubles, Hugo Delavelle ? Quelles règles vous imposez-vous pour la conception ?
Pour l'éco-conception, c'est vraiment intégré, l'éco-conception et l'éco-design, c'est vraiment intégré la volonté de minimiser l'impact environnemental de l'objet, du meuble, dès sa phase de création. Donc la forme va être guidée et par un aspect créatif, le design, mais aussi par la volonté de réduire le bilan carbone, le bilan environnemental, énergétique, économiser la ressource, le rendre plus léger, plus durable, réparable.
Concrètement, comment ça se passe, l'éco-conception ? Il y a une façon de dessiner les meubles qui évite le gaspillage de bois ?
Oui, bien sûr, le fait de trouver des principes constructifs qui vont permettre de donner beaucoup de rigidité à un pied de tabouret sans utiliser beaucoup de ressources, en lui donnant une forme de cornière, par exemple, qui va être très stable, ça va permettre d'utiliser du bois de plus faible épaisseur, donc minimiser la ressource, minimiser également le temps de séchage en mettant en œuvre des bois qui sont moins épais, par exemple. Le rendre empilable permet de baisser la surface de stockage nécessaire, de diminuer l'impact carbone lié au transport, et puis le fait de les rendre bien sûr durables par la qualité de fabrication et réparables avec des finitions aux huiles naturelles qui peuvent, s'il y a une rayure, être facilement réparées directement chez les clients.
Il y a un terme technique qui est important, je crois, pour parler justement d'éco-conception, c'est la dosse. Qu'est-ce qu'une dosse ?
Alors la dosse ou redosse, c'est la première demi-planche quand on scie un tronc d'arbre donc qui est cylindrique, on va faire une première coupe avec une lame de scie. Donc il y aura une face où on aura l'écorce brute arrondie et une face qui sera sciée. Et ces planches qui n'en sont pas, vu qu'elles ont une face qui est brute avec l'écorce de l'arbre, elles sont écartées directement à la scierie. Elles ne sont pas valorisées autrement qu'en chauffage. Et on a donc dessiné une collection, la collection d'Andro, qui permet en venant facetter, profiler les planches de bois en suivant la forme de l'écorce, de redonner de la noblesse à ce qui était prêt à devenir un déchet à la scierie.
Alors malgré tous les efforts pour éviter le gaspillage, il y a toujours des chutes hein, quand on travaille le bois. Qu'est-ce que vous faites ensuite de ces chutes de bois, des petits morceaux qui ne suffisent pas pour le meuble ?
Alors quand c'est plus petit, on a développé des petits produits, des accessoires, donc des couverts à salade, des moulins à poivre par exemple, qui nous permettent de valoriser jusqu'à des très petites longueurs. Et en dernier recours, les chutes de bois plus petites ou pas suffisamment qualitatives sont broyées et permettent d'alimenter une chaudière biomasse qui chauffe l'ensemble des bureaux et des ateliers.
Vous avez désormais une scierie sur place à Solnaux.
Depuis deux ans, oui, depuis un peu plus de deux ans maintenant, on a ouvert notre propre scierie. On s'approvisionnait de tout temps dans la région vers des scieries partenaires, mais le bois pouvait des fois faire 200, 300, 400 kilomètres. Et ouais, aujourd'hui, on a pu vraiment encore diminuer drastiquement le bilan carbone lié au transport du bois en s'approvisionnant, comme je vous disais, vraiment dans un rayon de 15 kilomètres moyen maximum. Et donc, les arbres viennent de la forêt directement ici sur le parking de la scierie. Ils sont bionnés, écorcés, ensuite sciés en planches. Et le gros intérêt aussi qu'on a derrière, c'est qu'on se laisse le temps de faire sécher le bois naturellement, uniquement en le plaçant à l'extérieur, en le couvrant avec des tôles pour le protéger des intempéries et en le séchant quasiment exclusivement de façon naturelle, sans le mettre dans des séchoirs qui sont énergivores et avec un bilan environnemental moyen.
Alors, si on regarde les prix, vos meubles ne sont clairement pas donnés, on peut le dire, hein, 300€ pour une chaise, par exemple. Mais c'est le même prix que nombre de marques qui ne fabriquent pas en France.
Oui, tout à fait. On n'a pas vocation à concurrencer des grands acteurs du mobilier low cost. On veut faire du mobilier de qualité, durable et 100% fabriqué en France. Donc ça a un coût, mais effectivement, on n'est pas plus cher que des acteurs qui ne vont pas fabriquer en France avec un modèle économique différent. C'est qu'on distribue nos produits en direct auprès de nos clients, qu'ils soient professionnels, architectes, restaurateurs, hôteliers ou particuliers, principalement via notre site de vente en ligne. Donc il n'y a pas d'intermédiaire, de boutique, de revendeurs qui prennent une marge pour leur activité.
Alors vous avez des pièces désormais qui ont intégré la collection permanente du mobilier national. C'est un peu le conservatoire de la création française. Grosse fierté pour vous, j'imagine ?
Oui, ça a vraiment fait plaisir quand on l'a appris. Et ouais, c'est un peu une consécration.
Vous mesurez le chemin parcouru depuis la grange de vos parents, justement, depuis ce remplissage de bois ?
Oui, bah c'est plus la même échelle. J'ai commencé tout seul dans le garage de mes parents, pour ainsi dire. Et aujourd'hui, on est 20 dans un atelier assez gigantesque. Mais les choses sont pas simples. Le prix des matières a explosé depuis deux ans, notamment le bois est touché de plein fouet, l'énergie également. Et on a encore beaucoup de chemin à faire pour consolider les acquis et puis toujours améliorer nos process, nos façons de faire et puis notre offre produit.
Qu'est-ce que vous pourriez améliorer, notamment pour être encore plus éco-responsable ?
Nous, un des gros enjeux aujourd'hui, c'est la production d'électricité. Et on souhaite construire des ombrières solaires qui nous permettraient de faire sécher notre bois à l'air libre sous les ombrières et puis sur le dessus de l'ombrière, du coup, mettre des panneaux photovoltaïques pour être au maximum autonome en électricité.
Au fait, quelle est la durée de vie de vos tables, de vos bancs, de vos chaises ?
Les meubles, nous, on donne une garantie supralégale de 10 ans, 5 ans sur les assises, les chaises, les tabourets, et on ne limite pas dans le temps la fourniture de pièces détachées et ou la réparation des meubles. Et l'ambition, c'est clairement de les fabriquer avec des matériaux qui soient réparables et qu'on les retrouve chez des antiquaires ou chez des ébénistes en train d'être restaurés dans des décennies ou dans des siècles. Comme ça a longtemps été le cas, aujourd'hui, vous trouvez encore chez des antiquaires des meubles du XVIIe siècle. Et même si on n'est pas sur des mobiliers de prestige, on les conçoit pour qu'ils soient réparables et qu'on leur permette à nos meubles d'avoir une durée de vie très très longue.
Les antiquités du futur, donc.
J'espère.
Mobilier de Lavelle, c'est donc à Solnaux, en Haute-Saône. Merci beaucoup, Hugo de Lavelle.
Merci, Dorothée. Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Les endroits qui ont plusieurs vies sont toujours un peu fascinants. Eh bien, voici un immense bâtiment qui a d'abord été une forge au XVIe siècle. On y travaillait les métaux, donc, puis est devenu une usine à papier et ensuite une coopérative d'affinage. On y faisait du fromage. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un lieu de culture, des spectacles, des ateliers pour le grand public et des résidences artistiques, entre autres. La forge Art et Culture est à Seveux, village de 400 habitants entre Vesoul et Grès, au bord de la Saône. Bonjour Raphaël Barthier.
Bonjour.
C'est vous qui portez cette forge avec votre femme Julie Bollet. Alors, vos profils sont assez étonnants, si vous me permettez. Vous êtes médecin généraliste, également art-thérapeute et musicien, et Julie est psychologue et danseuse. Tous vos talents réunis, ça donne la forge, c'est ça ?
Bien, en tout cas, de notre rencontre est née cette envie de créer un lieu en milieu rural où on pourrait lier en effet toutes nos passions et également une partie de notre savoir-faire professionnel.
Cette ancienne forge est un très grand bâtiment de 1500 mètres carrés. Vous nous décrivez les lieux d'abord ?
Oui, donc c'est un bâtiment, comme vous le dites, qui a eu plusieurs vies. Donc le bâtiment originel, c'est ce qu'on essaie, nous, de retrouver. Donc, on a essayé, dans un premier temps, dans les travaux, d'enlever tout ce qui avait été rajouté au fur et à mesure des époques et de retrouver ce bâtiment originel. C'est un bâtiment qui se compose de très grands espaces. Et nous, on a une grande salle de spectacle, une salle d'exposition. On a également une partie qui sera amenée à être un hébergement, un gîte de grande capacité. Il y a une grande cour où on fait des événements l'été sur des spectacles, des concerts. Et la dernière partie qui sera une grande salle de spectacle de plus de 500 places, mais qui viendra beaucoup plus tard dans la rénovation.
Voilà, vous avez entrepris déjà des gros travaux de rénovation, mais ils ne sont pas terminés. En revanche, les concerts et les résidences ont commencé, je crois.
Tout à fait, oui. Depuis juillet 2023, on a commencé donc à proposer une programmation aux personnes du village et un petit peu aux alentours pour commencer à faire connaître le lieu et qu'ils puissent un peu s'approprier ce lieu qui est pour eux au final.
Il est question, on le disait, de réunir vos compétences. Donc j'imagine qu'il y aura aussi un volet soins dans cet endroit à terme.
Voilà, en fait, les différents volets du projet. Donc le premier projet, donc, c'est de pouvoir développer les arts et la culture en milieu rural. Et un des deuxièmes, ce serait quand même de pouvoir que ce lieu devienne aussi un lieu de soins, proposer l'art comme média de soins auprès des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou autres, en santé mentale aussi. Voilà, on a beaucoup d'envie sur ce terrain-là.
Et ça, c'est pour les années à venir.
Voilà, ce sera plutôt pour les années à venir, oui.
Et c'est compliqué de faire vivre un lieu de culture en zone rurale ? Qu'est-ce que vous constatez à l'usage ?
En tout cas, on a la chance de voir que ça a fédéré beaucoup de gens, déjà dans nos entourages au départ, et puis un peu plus loin. Donc on a deux associations qui se sont montées. Une première, les Amis de la Forge, qui est plus côté rénovation, et une deuxième qui s'appelle la Bouilloire des Arts, qui elle est plus dédiée à tout ce qui est les événements culturels et artistiques. Et donc on a entre 30 et 40 bénévoles quand même qui viennent régulièrement et qu'on remercie de leur soutien et de leur engagement.
Avez-vous besoin d'encore plus de renforts ?
On a toujours besoin de monde, oui, et de monde et de compétences aussi. Toutes les personnes qui savent bricoler ou qui ont des compétences en rénovation ou en bâtiment sont les bienvenues.
Ce sont des murs qui sont chargés d'histoire, hein. Ça fait quelque chose, j'imagine.
Oui, c'est, on sent que ce bâtiment, en tout cas, il fait partie du patrimoine industriel de Haute-Saône. Et beaucoup de personnes ont travaillé dans ces murs et sont très émues de voir qu'il s'y passe encore des choses. Voilà, il est très important ce bâtiment pour les gens du village, on l'a bien senti.
Bon, je rappelle que vous êtes médecin généraliste hein, par ailleurs. Ça va, vous avez des journées extensibles ?
Les journées ne font que 24 heures, mais on est fait faire avec.
La Forge Agriculture, c'est donc à Seveux en Haute-Saône. Merci beaucoup Raphaël Barthier.
Merci à vous.
Bonne journée, au revoir.
Bonne journée, au revoir.